Vacarme.
Je comprends pas comment c'est possible en fait. Pourquoi est-ce que ma mère biologique m'a donné naissance, puis même si elle n'avait pas les moyens de me garder, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Puis pourquoi est-ce que mes parents adoptifs sont tombés sur moi? Ils auraient pu tomber sur quelqu'un d'autre. Je comprends pas trop ça.
Vacarme. Vacarme.
La voix des adoptés.
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
L'adoption est une usine à fantasmes, dit l'un des protagonistes de Une histoire à soi, le documentaire d'Amandine Gay, dont nous vous parlions mardi. Une usine à fantasmes, parce que chaque adopté qui ignore son histoire se pose peut-être davantage de questions que les autres. Chaque adopté crée son roman familial, imagine les raisons de son abandon, fantasme son pays, ses parents biologiques, invente son autre vie, la vie qu'il aurait dû vivre. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire d'Anaïs et de Pierre-André, qui sont nés au Pérou et ont été adoptés en Suisse. Ils sont frères et sœurs, mais chacun entretient des liens bien différents à ses origines.
Voilà, il faut quand même grimper un petit peu. D'abord, il y a la route avec ces villages. Puis ensuite, le taxi dit, bon voilà, je veux pas aller plus loin.
Un beau bizarre, reportage Jonas Paul, réalisation Jean-Daniel Mottet.
Ce moment-là, j'aime beaucoup parce que ça veut dire que je me rapproche. Et puis justement, qu'on commence à monter la montagne avec ses maisons en terre. D'un coup, on commence à voir que... Il n'y a plus d'électricité, on voit qu'il n'y a plus de poteaux électriques. Ouais, c'est une montée. Je me dis toujours qu'on mérite. On mérite d'arriver chez elle. Voilà, un chemin initiatique pour arriver à avoir cette autre vie. La vie que je n'ai pas eue. Et on passe par des grands champs. Avec des cultures des deux côtés, puis c'est un chemin qu'on suit. Puis à un moment donné, on bifurque sur la droite, on passe sur un petit chemin. On sait pas trop où on va, on sait qu'on est sur des terres... C'est une communauté, donc forcément on entre sur des terrains qui sont privés, entre guillemets. Ça aurait pu être ma terre, ça aurait pu être ma maison. Les grands champs, parce que mes sœurs ont leur maison tout autour. Et puis c'est vrai, c'est cette autre vie que j'aurais pu avoir, totalement différente, avec 6 enfants... C'est la montée, ça permet de laisser de côté mon moi suisse et puis être plus, enfin redevenir peut-être la fille que j'aurais dû être. C'est un peu ça, voilà. Péruvienne et puis elle est un peu étrangère parce qu'elle a changé et puis elle revient comme ça pour ramener des choses parce que j'ai toujours beaucoup de choses, des kilos de farine, enfin de choses essentielles. Parce que je me suis toujours refusée à venir avec de l'argent. Même si je peux lui laisser quelque chose. Mais ce quelque chose, pour nous, c'est rien du tout. C'est 50 dollars, 100 dollars. Il y a des gens qui pourraient trouver ça bizarre, mais il n'y a jamais eu ce lien d'argent. Je viens toujours avec des choses de première nécessité. Puis le rapport est très simple. On continue à monter, et puis là, ça devient un peu plus calme. De plus en plus calme, on entend juste le vent. Et puis après, quand on arrive, il y a un chien qui aboie, parce qu'elle a plein de petits chiots, pour annoncer qu'il y a un visiteur. Et là, c'est toujours drôle, parce que je la vois, c'est toujours la même chose. Je vois sa petite tête qui sort, c'est qui ? Qui sait ? Puis tout d'un coup, elle reconnaît la fille qui revient d'ailleurs. Donc en fait, je viens jamais pour elle. Je viens pour le Pérou et pour elle. Et là, elle vient en courant, avec les bras ouverts et tout. C'est une vague d'émotion parce que aussi je dois accueillir son émotion à elle, comme elle ne me voit pas souvent, puis elle est très, très démonstrative. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de tristesse que je ressens très fortement, donc je dois me préparer un petit peu à recevoir ça, parce que pour elle, je suis sa fille, enfin la fille qui est juste partie et qui revient. Et moi, c'est la femme qui a donné la vie, je la connais, je sais que c'est ma maman. Je suis contente de la revoir, mais je n'ai pas cette émotionnalité comme quand j'arrive de Genève en Valais, où là je revois mes parents, même si ça fait une semaine ou un mois qu'on ne s'est pas vus. Toujours ce grand plaisir, ah, ce même sentiment qui est là.
C'est à combien d'heures de marche de la route ?
Une heure et demie. Et puis, c'est vrai que Pradadzeux, c'est moins loin, mais ça me fait toujours penser un peu à ça. Le Pérou, voilà. Et la montagne.
Et la première fois que vous avez vu votre maman ?
Oui.
Comment c'était ?
Non, ça s'est bien passé. Je me rappelle juste que j'étais très jeune et que je ne savais pas quoi lui dire, si ce n'est que oh, enfin je vois à qui je ressemble. Puis qu'elle était souriante et qu'elle pleurait.
Et comment vous l'appelez ?
Marcelina, je l'appelle Marcelina. Je trouve que c'est très doux, ça lui va bien. Elle a ce petit côté dans l'œil, un peu d'enfant. Elle a les cheveux blancs forcément. Mais voilà, une ancienne petite fille. Je ne sais pas quel âge elle a. Je lui ai posé la question une fois, elle ne savait pas me répondre. Qu'elle ait 60, 70 ou 80 ans, finalement. On voit que c'est une personne qui a déjà bien vécu, qui connaît beaucoup de choses. Et puis, puis Marcelina, elle a surtout donné à la vie des enfants, dont deux qui sont partis en Suisse. Ouais. Ouais, c'est une jolie histoire, je trouve, dans notre cas.
Et vous, elle vous appelle Anaïs ou elle vous appelle Pedrita ?
Non, elle ne m'appelle pas, en fait. Je crois qu'elle m'a appelée Irita, donc ma petite fille. Mais Anaïs, non. Donc du coup, là, on sort un petit peu de ce petit chemin. Et puis on va juste à un petit endroit où j'aime bien me poser parce qu'on voit tout. Puis on est face à la montagne qui est côté Tracouai. J'aime beaucoup.
Et ça a été important pour vous de trouver un lieu ici en Suisse qui fasse le lien avec vos origines péruviennes.
Ça permet vraiment de me construire, en fait. Continuer à construire, puis à comprendre le pourquoi, parce qu'on cherche toujours la question pourquoi. Pourquoi on est là, pourquoi on est adopté, pourquoi, quel sens a tout ça, enfin, c'est toutes des questions qui reviennent. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je devais venir ici. Et en plus, ça ressemble tellement à Cusco. Donc c'est un peu comme si, en fait, j'ai jamais quitté l'endroit. Hein, puis que je peux vivre aussi d'une manière aussi saine que peut-être je l'aurais vécu là-bas. Parce que là-bas, ils vivent de... Bon, ils ont une vie très dure, hein, ça c'est clair. Mais ils vivent quand même de choses de la terre. Ils sont très en contact avec la nature. Ils n'ont pas d'électricité, donc ils travaillent avec la lumière. Ma famille péruvienne vit à ce rythme-là. Et j'ai l'impression de retrouver un peu ce rythme quand je viens à Nanda. Et ça me fait beaucoup de bien. Puis j'ai l'impression que c'est ce que, mine de rien, mon corps a besoin.
Ça s'appelle la vallée sacrée, là-bas ?
La vallée sacrée, voilà. C'est vrai que ça ressemble tellement au Valais. Je suis assez fière parce que ça veut dire aussi que même les Cusqueniens au Pérou ont aussi une réputation de personnes de la montagne, avec un certain caractère. Et puis, la vie, elle est rude, elle marque aussi les visages, les esprits et tout. Puis, en Valais, je retrouve ça. Ce côté ancré, ce rapport à la terre et à la montagne, je retrouve. Ouais.
Qu'il y a un troupeau de vaches qui arrive. C'est pas ça, hein? Les lamas là-bas, ils ont pas de clochettes.
Donc ça, c'est péruvien?
Ça, c'est péruvien, oui.
C'est en mobile?
Ça, c'est en mobile, ouais.
Ah ben... Alors ici, on est à Basnanda, chez mes parents.
J'ai grandi ici.
J'ai grandi ici, voilà. C'est ma maison, la maison familiale, la maison de mon enfance. Il y a toujours un chien qui accueille. Et là, il y a mon papa, Emmanuel.
Bonjour.
Et puis ma maman, Sylvia.
Bonjour.
Voilà, et puis sur le petit balcon ensoleillé, le petit havre de paix de Vasninda, il y a mon frère Pierre-André.
Bonjour.
Et vous venez souvent ici rencontrer les parents d'Anaïs ?
Malheureusement pas assez souvent, je pense. Je pense que je viens plus souvent depuis que mon père est décédé, je pense.
Mais donc vous êtes le frère biologique d'Anaïs, mais par contre ses parents adoptifs ne sont pas vos parents adoptifs.
Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Oui. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu étrange quand on parle de ça. Souvent quand je fais des nouvelles rencontres, des amis ou comme ça, puis je dois leur expliquer ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour eux, c'est vrai. Ouais. Puis ce qui est un petit peu plus étrange, c'est que j'ai une autre sœur aussi, qui vient aussi du Pérou, donc aussi adoptée, mais qui n'est pas ma sœur biologique en fait. Voilà.
Et comment vous avez fait pour découvrir que Anaïs était votre sœur biologique et qu'elle avait été adoptée par d'autres parents ici en Suisse ?
Je crois que je l'ai peut-être un peu toujours su, je crois. Je le savais au fond de moi, quoi, quelque part. Quoi.
Comme tu savais tout, ouais. D'accord.
Il faudrait surtout demander à Manu comment ça s'est fait avec mes parents, comment le contact a été fait au départ.
Ben, c'est nous qui avons pris la décision, parce qu'on a dit, bon, entre eux, le Sion ou Nanda, c'est proche, hein, ils peuvent se rencontrer, puis voilà.
Vous le saviez comment ?
Par les assistantes sociales, justement, de Lausanne, qui nous ont dit qu'Anaïs avait un frère.
À quel âge on t'a vu la première fois, Pierre-André ?
Mais moi, je pense que
c'était peut-être autour des deux ans.
Deux ans, trois ans.
Qu'on a appris que toi, tu étais au canton de Vaud, quoi. Voilà. Nous, on ne savait pas avant.
Quand on a appris ça, on a dit, ben, on va prendre contact. Puis on a pris contact, on a-t-il trouvé ? Tu te souviens de ça ?
Oui, ça, je me souviens.
C'est comme s'il faisait partie de la famille.
Ah,
voilà.
Oui,
ouais. Enfin, il est de la famille. Oui, c'est... Ouais. Mais ouais, tu es de la famille. Enfin, on a deux familles. C'est un peu comme ça.
Ouais. Il manque juste que tu viennes une fois au Pérou.
Ouais.
T'as pas
ça,
décidé.
C'est vrai. C'est,
ouais.
C'est un petit peu une question récurrente, ça, le fait que je ne suis pas allé au Pérou.
Ta maman, il faut que tu la connaisses. Elle est trop super. Elle est trop super. Elle vit dans la montagne, elle vit dans une communauté. Elle est trop super. Elle a eu 11 enfants. Combien vous êtes encore ? Deux, trois ?
Ouais, deux.
Mais vous connaissez quoi de votre mère biologique ? Parce qu'il dit, faut que tu la connaisses.
On peut dire que je ne connais rien du tout. Non, j'ai vu des photos, même il y avait une vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que non, je connais rien d'autre de ma mère biologique. Mais moi, j'aime bien ce terme biologique parce que c'est vraiment biologique. Élever, éduquer un enfant, prendre soin de l'enfant quand il est mal, c'est ça être parent. Pour moi, c'est pas donner naissance à un enfant. C'est trop facile, il y a plein de personnes, tout le monde peut donner naissance à un enfant. Par contre, prendre soin de l'enfant, aller chercher au Pérou, l'aimer comme si c'était son propre enfant, c'est ça être parent. Pour moi, c'est pas donner naissance à un enfant. Et puis, mais j'ai pas au fond de moi le besoin de connaître. J'écoute Anaïs quand elle me parle de notre mère biologique, ça je l'écoute, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Mais aussitôt qu'Anaïs part ou qu'on se sépare, je t'ai jamais rappelé, genre explique-moi, montre-moi plus de photos, non, jamais. Mais j'aime bien quand elle m'en parle par contre.
Mais vous diriez qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ?
Il y a peut-être quand même un petit peu d'anxiété, ouais. Peut-être un peu. Déjà, le voyage, c'est... Disons que mes parents étaient très gentils, mais quand même assez stricts. Eux, ils voulaient qu'on soit vraiment ancrés dans la Suisse. Pour eux, il fallait que je connaisse vraiment tout de la Suisse, qu'on visitait vraiment la Suisse de fond en comble. C'était quelque chose d'important pour eux. J'ai pas appris l'espagnol, par exemple, contrairement à Anaïs qui parle espagnol. Je peux pas dire que ça me gêne, mais j'aime pas trop quand on me dit « Oui, mais t'es péruvien ». Non, je suis suisse. Pour moi, je suis suisse. Je me sens bien comme ça. Donc, j'ai pas ce besoin d'aller voir là-bas ma mère biologique. Pour moi, ma mère, c'est ma mère adoptive. Mon père, c'est mon père adoptif. Voilà.
Est-ce que vos parents adoptifs vous en voudraient si vous alliez à la quête de vos origines ?
J'ai pensé à ça, mais non, je crois pas, non. Ils m'ont jamais bloqué, ou au contraire, ils me poussaient plutôt à y aller. Mais quelque part, au fond de moi, je pense que j'ai un petit peu peur de leur faire de la peine. Quelque part, je pense au fond de moi.
Parce que Pierre-André, c'est pas un prénom péruvien, il me semble.
Non, pas tellement. C'est pas tellement indien, andin.
Parce que vous connaissez votre nom de naissance?
Non, non.
C'est Pedro.
On l'appelait Pedrito.
Alors justement, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que là-bas, les tias, enfin les femmes qui s'occupaient de nous, elles m'appelaient Pedrito. Ça veut dire petit Pierre. Mais il n'y avait pas de nom officiel. Non. Mon père était pasteur, donc il a choisi ce nom. Il s'appelait Jean-Jacques, et moi Pierre-André. C'est le nom des quatre premiers apôtres dans la Bible. Et lui, il m'avait dit à l'époque que, quelque part, pour lui, le fait de renommer un enfant, c'est s'attribuer à l'enfant quelque part. Il avait besoin de ça parce que je suis son fils. Je pense que, en tout cas, d'après ce que j'ai compris de lui, si on m'avait donné, je ne sais pas, un nom à consonance plus espagnole, il y aurait toujours un petit peu ce rappel de « je suis, ben, c'est pas mon enfant ». Tandis que là, il m'a donné un nom. Voilà.
Et votre autre sœur qui est adoptée du Pérou aussi, elle a un lien avec le Pérou?
Non, alors non plus. Elle est pas retournée. Hein. Par contre, elle a fait les démarches pour avoir les papiers de naissance d'origine. Elle voulait trouver son nom de famille, surtout d'origine. Elle a réussi à l'avoir. Je ne me suis pas fâché avec elle, mais c'était quelque chose pour moi qui me semblait dingue. C'était quelque part renier un petit peu l'adoption que mes parents ont fait. Maintenant, je peux comprendre, mais à l'époque, je ne comprenais pas ces démarches. Je ne comprenais pas. Elle est suisse, elle doit se contenter de ça. À l'époque, je pensais comme ça. Je pense qu'on est, quand on est, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune, c'était plus un peu plus compliqué de parler de ça, je crois. Non?
L'adoption, ouais.
Qu'est-ce que tu penses de mes progrès?
T'étais progrès
de ma psychanalyse.
Au début, on n'en parlait pas trop, on jouait.
Ouais, on jouait.
On jouait parce qu'on n'avait pas conscience que... Enfin, je savais que t'étais mon frère, donc je me posais pas de questions. Et puis après, je me souviens que je posais des questions parce que moi, je me posais des questions.
Peut-être qu'il y avait une chose qui m'avait un petit peu gêné, mais je crois qu'on en avait parlé. C'est quand une fois, tu étais retourné au Pérou et puis ils avaient essayé de me contacter par Facebook. Alors ça m'avait un petit peu gêné parce que...
Parce que c'est pas toi qui as fait la démarche.
Voilà, j'avais pas fait la démarche. Puis en plus, j'ai vu des... Comment dire? J'ai vu des têtes de profil péruviennes, quoi. qui me ressemblaient quelque part, un petit peu, quand même. Et là, ça m'a un petit peu déstabilisé parce que je me suis dit, mais oui, j'ai quelque part... Une autre famille, c'était quoi, notre cousin
qui avait... Puis c'est vrai qu'il ressent plus lui, tu ressens plus toi à Marcelina que moi. Ouais. Tu ressens plus toi aussi à leur papa qu'ils ont eu, qui était le frère de Marcelina qui est mort aussi. Donc du coup, quand ils ont vu la photo, pour eux, ça a été un choc parce qu'ils se sont dit, mais oh, c'est le même. Donc on veut le voir. Et puis ils ont demandé. Et puis après, ils ont très bien compris ce que c'était l'adoption. Ils ont aussi fait une évolution de leur côté.
Peut-être que aussi... Le fait de ne pas aller là-bas, c'est peut-être une facilité peut-être, pour moi de ne pas creuser, parce que peut-être que ça veut dire qu'émotionnellement, je devrais m'investir plus.
Parce que c'est le cerveau, enfin, il y a quand même une incompréhension. Comment comprendre qu'on a été adopté? Déjà, l'adoption, c'est difficile à matérialiser. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans la tête. Il ne faut pas trop y penser.
Ouais,
parce que si on réfléchit sur la chose, du comment, du pourquoi, c'est, on ne peut pas. Il ne faut pas trop y penser.
Pour moi, en tout cas, ce qui est bizarre, c'est... C'est compliqué à joindre les deux bouts, en tout cas. Moi, dans ma... Je ne sais pas comment dire. Je ne comprends pas comment c'est possible, en fait. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que ma mère biologique m'a donné naissance, puis même si elle n'avait pas les moyens de me garder, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Puis pourquoi est-ce que mes parents adoptifs sont tombés sur moi? Ils auraient pu tomber sur quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas trop ça, en fait. C'est...
Oui, il y a comme une coupure physique qui s'est faite. Et puis, ce truc un peu flou qui est que j'ai une autre maman qui est là-bas, qui a donné un héritage génétique, puis peut-être un héritage aussi d'histoire. Donc, ça, c'est bizarre. C'est bizarre d'expliquer, mais c'est un beau bizarre. C'est génial, je dis toujours. Mais si je dois expliquer, c'est comme un éclair. C'est deux mondes qui se rencontrent. Puis des fois, ça fait peur aussi. C'est pour ça que je dis, Pierre-André, il faut que tu y ailles quand tu le sens.
Ouais.
Parce que comme c'est quand même assez puissant émotionnellement, moi je l'ai fait, j'avais 20 ans. C'est une vague. Après, il faut gérer tout ça. On fait entrer une autre famille, une autre vie. Et ce bizarre devient aussi ta vie. Donc l'histoire continue sans fin. Et en fait, c'est une histoire sans fin. Voilà.
Ouais. Est-ce que ça évolue dans votre vie, le lien avec le Pérou?
Là, il n'y a pas longtemps que je suis papa. Et plusieurs fois, je me suis dit, en tout cas, quand elle sera née et qu'elle aura l'âge un peu de comprendre, je vais l'amener au Pérou. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça. Et dans ma tête, comme Anaïs est la marraine, je m'étais dit, on ira avec Anaïs, je veux qu'elle rencontre là-bas, puis moi, ça me fera aussi du bien.
Ouais, on entend déjà les oiseaux.
C'est des grands prés avec des mélèzes.
Les mélèzes, voilà, les fameux mélèzes. On voit aussi toute l'histoire, ils ont des beaux troncs. Ils se tiennent fièrement. Il y en a un là-haut qui s'entremêle avec un autre. Et puis ici, des fois, donc, on voit les oiseaux partir. Ouais.
Vous avez amené un livre avec vous, oui. Il me semble.
Oui, j'ai amené un petit livre. J'ai rencontré deux filles, Plume et Pinceau, comme elles s'appellent. Une qui dessinait, l'autre qui écrivait. Le collier d'Anaïs, elle a utilisé mes mots pour écrire un conte sur l'adoption en utilisant mon histoire. Là, ce qui est magnifique, c'est que, bien sûr, il y a tout un océan qui sépare ces deux mondes. Donc, il y a le monde avec les montagnes enneigées, la Suisse. Et puis, de l'autre côté, il y a Cusco avec étoilé, parce que c'est très beau la nuit. Et puis ça, c'est aussi, même dans mes rêves, petite, des fois, quand je dis qu'il y a la Terre qui m'appelle, c'est que tout d'un coup, je revois le Pérou, surtout que je parle la langue. Donc, quand j'ai commencé à rêver en espagnol, voilà, ça avait fait le passage. Voilà. Et puis ensuite, elle grandit. Et puis, quand elle est retournée au Pérou, dans l'histoire, avec sa famille, elle a croisé une femme. Elle ressemble beaucoup à ma maman, cette femme, à Marcelina. Un chapeau blanc, des longues tresses inca. Et puis, elle me donne un collier. Et là, je trouve très beau. Parce qu'elle dit, tiens, c'est un collier miroir. Il te rappellera ton histoire. Garde-le, tu en auras besoin. Il te montrera le chemin quand tu seras en quête de ton identité et que tu ne sauras plus où chercher. Et puis ça, je trouve magnifique. Mais ça m'émeut tout de suite parce que nous, on a de la peine à souvent dire, enfin nous, quand je dis nous, les enfants adoptés, souvent de la peine à souvent expliquer ce qu'on ressent. Et puis c'est vrai que parfois quand on rencontre des personnes qui ont ce petit don d'utiliser le bon mot, en quelques phrases, de dire ce qu'on recherche, ce qu'on attend, c'est toujours magique. La Suisse et le Pérou font partie de toi. Tu n'as pas à faire un choix. C'est dur pour les autres de le comprendre, mais tu es ces deux mondes à la fois. Ils se mélangent et tu dois apprendre à vivre avec tout ça. Et même si parfois ton cœur se déchire entre ces deux extrémités, ton défi sera de les réconcilier pour tenter de le guérir. Ne baisse pas les bras, sois forte et tu y arriveras. Voilà. C'est magnifique.
Vacarme.
058 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Jonas Paul réalisé par Jean-Daniel Mottet. Si vous avez été adopté, avez-vous pu, comme Anaïs, reconstruire une jolie histoire avec vos origines? Avez-vous au contraire décidé de tirer un trait sur votre passé? Un numéro pour nous le raconter, 058 236 236 0.
Vacarme. Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Stéphanie Coudray et Diane Dufaux.
Demain, nous irons à Berne, où se trouve l'une des 8 boîtes à bébés de Suisse.
C'est une lettre qui a été déposée avec un bébé dans cette fenêtre ici, à Berne. Chère Annie, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner ce pas, de te donner dans des mains inconnues. Tu es le fruit d'un amour brisé et ma situation a tellement changé que je ne peux pas te garder avec moi, même si je le souhaite. Pardonne-moi, ta mère.
L'expérience du vide, un reportage à découvrir dès 13h dans Vacarme.